Nous avons deux questions à vous poser ce matin. Il y a une première question qui concerne plus la recherche d'un frère. Et cette question porte sur Fides Drazio. C'est au sujet de l'expression philosophie chrétienne.
Ah oui. Qui a fait fureur pendant un certain temps. Du temps de Mandel.
Le frère voudrait, voilà. Enfin, pourriez-vous préciser ce que vous dites souvent au sujet d'une philosophie dite chrétienne ?
Je dis ce qu'on devrait dire. Je suis en face de philosophes chrétiens qui fondent la philosophie. Le point de vue chrétien ne commande pas immédiatement la philosophie. Premier commandement de Dieu, tu feras de la philosophie. Non, tu vois ça? Je fais de la philosophie pour cultiver mon intelligence et pour mieux comprendre la situation du monde, pour mieux comprendre jusqu'où mon intelligence peut atteindre la vérité par elle-même. Et si la foi vient abîmer mon autonomie. Donc, tous ces points-là, je les traite parce que je suis chrétien et que j'essaie d'être philosophe. C'est, je crois, cette distinction-là qu'il faut faire. C'est que le sujet... On peut faire de la philosophie, on peut faire de la philosophie étant chrétien, on peut faire de la philosophie comme cherchant une religion, cherchant de savoir ce que c'est que la religion. Je peux faire de la philosophie comme quelqu'un qui est anti-religieux. Souvent, les anti-religieux, c'est un point de vue affectif. Ils sont anti-religieux parce qu'ils ont été blessés dans leur recherche par quelqu'un qui représente la foi chrétienne, un prêtre. C'est la responsabilité que nous avons. Officiellement, quand on est prêtre, quand on est religieux, on est représentant de la vie chrétienne. Donc, nos bêtises augmentent la difficulté d'être chrétien. Notre orgueil augmente la difficulté d'être chrétien. Pour les autres, et pour nous aussi, mais pour les autres. Et on est porteur d'un drapeau. Et donc, officiellement, le laïc ne l'est pas, le laïc dans le monde, tandis que le religieux l'est. Officiellement, et c'est du reste pour ça que je suis partisan que le religieux porte un habit. C'est son drapeau. On sait qu'il est ça. Et ne pas vouloir prendre la vie, être comme tout le monde, c'est cacher ce qu'il dit. Donc, alors, ce qu'il faut, c'est distinguer le point de vue de l'homme, le chrétien. L'homme est chrétien ou n'est pas chrétien. Et l'homme fait de la religion, fait de la recherche philosophique, étant religieux, étant chrétien, étant païen.
La difficulté que le frère voulait soulever, oui. C'est dans ses échanges avec d'autres personnes qui réfléchissent à la question. Et on lui allègue souvent le numéro 76 de Fides et Drazio,
oui.
Que je vais vous lire un peu.
Oui, rappelez-moi ça.
C'est dans le chapitre sur l'interaction entre philosophie et théologie, au numéro 76. Une deuxième situation de la philosophie est celle que beaucoup désignent par l'expression philosophie chrétienne. La dénomination est de soi légitime, mais elle ne doit pas être équivoque. On n'entend pas par là faire allusion à une philosophie officielle de l'Église, puisque la foi n'est pas comme telle une philosophie. Par cette appellation, on veut plutôt indiquer une démarche philosophique chrétienne, une spéculation philosophique conçue en union étroite avec la foi. Cela ne se réfère donc pas simplement à une philosophie élaborée par des philosophes chrétiens qui, dans leurs recherches, n'ont pas voulu s'opposer à la foi. Parlant de philosophie chrétienne, on entend englober tous les développements importants de la pensée philosophique qui n'auraient pu être accomplis sans l'apport direct ou indirect de la foi chrétienne. C'est ici que ça commence à poser question. Il y a donc deux aspects de la philosophie chrétienne. D'abord, un aspect subjectif qui consiste dans la purification de la raison par la foi. En tant que vertu théologale, la foi libère la raison de la présomption, tentation typique à laquelle les philosophes sont facilement sujets. Déjà, saint Paul et les pères de l'Église, et plus proches de nous, des philosophes comme Pascal et Kierkegaard, l'ont stigmatisé. Par l'humilité, le philosophe acquiert aussi le courage d'affronter certaines questions qu'il pourrait difficilement résoudre sans prendre en considération les données reçues de la révélation. Il y a ensuite l'aspect objectif concernant le contenu. La révélation propose clairement certaines vérités qui, bien que n'étant pas naturelles, naturellement inaccessibles à la raison, n'auraient peut-être jamais été découvertes par cette dernière si elle avait été laissée à elle-même. Ainsi de suite, Père.
Oui, c'est tout. Très bien. Il faut faire la distinction de l'objet philosophie chrétienne, mais on lit deux choses qui sont totalement différentes. La philosophie recherche de la vérité, le point de vue chrétien, l'homme qui vit de la révélation. Alors, les deux s'unissent en l'homme. Je suis un homme chrétien qui fait de la philosophie. Il est évident que ma vie chrétienne aide la recherche de la vérité. Donc, ce n'est pas totalement indifférent d'être chrétien ou de ne pas être chrétien. Puisque si on est chrétien, on a une boussole, on a un phare supérieur. Alors, on peut prendre tout à fait ça. Celui qui circule avec une lumière plus élevée, ça l'aide à regarder les réalités moins élevées que celui qui n'a qu'une seule lumière de regarder les réalités moins élevées. Mais c'est un éclairage, je dirais, accidentel. Il est accidentel pour la philosophie d'être chrétien. Mais le chrétien voit mieux ce que l'intelligence humaine peut atteindre et ce qui dépasse l'intelligence humaine, la révélation. Donc, plus la philosophie est subjective, c'est-à-dire plus elle dépend du philosophe, plus la distinction philosophie chrétienne, plus l'expression philosophie chrétienne sera acceptée dans la philosophie où le sujet philosophe donne des objets différents. Alors, c'est sûr, s'il est chrétien ou pas chrétien, sa philosophie est différente. Si je suis féminologue, alors, si je suis féminologue, en tant que philosophe, c'est évident que c'est très différent si je suis chrétien ou pas chrétien. C'est sûr. Puisque ma foi me fait vivre une vie spéciale et me donne des expériences particulières que je n'aurais pas si je n'étais pas croyant. Autrement dit, le champ de curiosité philosophique augmente par la foi. Sans la foi, tout ce champ d'interrogation n'existerait pas. C'est ce qui explique historiquement comment se fait-il que l'apport de la révélation chrétienne a donné un coup très grand dans le développement de la philosophie. Est-ce qu'un saint Thomas aurait pu exister sans la foi? Non, saint Thomas est avant tout théologien. Et c'est là l'erreur, vous voyez, qu'on commet les thomistes, c'est que saint Thomas est avant tout théologien. Et alors, faisons attention. Sa philosophie est transformée parce qu'il est avant tout théologien. C'est sûr. Mais saint Thomas fait la distinction entre le philosophe et le croyant. Mais les successeurs, les disciples de saint Thomas l'ont moins bien fait. C'est sûr que quand on pense à ce qu'est pour les gens la philosophie thomiste, pour eux, ça implique la foi. Mais je remarque cette chose-là. C'est que les thomistes se sont séparés de plus en plus de la philosophie officielle. Dès que nous avons dit « faisons bien la distinction entre les deux » et disons qu'au point de vue philosophique, on est aristotélicien, puisque saint Thomas n'a pas fait de philosophie propre. Donc, au point de vue philosophique, on est aristotélicien. Immédiatement, ceux qui étaient en Sorbonne ouvraient les portes. Tandis qu'on est thomiste, ah non, je ne peux pas vous ouvrir les portes, vous êtes chrétien. Oui, les répercussions sont énormes, les conséquences sont énormes. Quand on demande, vous êtes philosophe, ah, vous êtes philosophe, qu'est-ce que vous faites comme philosophie? Alors, oui, oh, je suis saint Thomas. Mais saint Thomas est un théologien. Donc vous faites une mauvaise philosophie, puisque vous êtes théologien. Je suis aristotélicien. Ah, c'est autre chose. Aristote est un vrai philosophe. Oui. Et notre philosophie est aristotélicienne. Saint Thomas, quand il a connu Aristote, eh bien, Aristote est devenu pour lui le philosophe. C'est très net. Quand saint Thomas parle du philosophe, c'est Aristote. Même pour lui. Saint Thomas n'a jamais voulu faire une philosophie nouvelle. Il a été auprès d'Aristote pour être plus philosophe. Il y a une sensibilité que nous devons ressentir ça, parce que nous vivons dans un milieu qui n'est plus entièrement catholique. Au Moyen-Âge, ça n'avait pas d'importance. Parce que le point de vue catholique était reçu autrement qu'actuellement, le point de vue catholique n'est pas reçu de cette façon-là. Donc, tout est très, très sensible à ça. Quand les gens vous demandent « Ah, vous êtes philosophe ?» Et alors vous répondez « Ah oui, oui, j'aime beaucoup saint Thomas. » Ne dites surtout pas ça. Dès que vous dites ça, vous êtes confessionnel. Ça veut dire que vous êtes chrétien avant d'être philosophe. Alors pour un philosophe, c'est très déplaisant. Oui. C'est comme si vous disiez, vous étiez chrétien avant d'être homme. Non, je suis homme et je suis chrétien. C'est l'homme qui est sanctifié par la foi. La foi n'est pas substantielle. La foi dépend de l'homme. Mais alors, c'est sûr, la foi dépasse l'homme par la finalité, mais pas dans le TSI. L'homme, l'intelligence humaine est présente. Donc, distinction entre la recherche de la cause formelle et la recherche de la cause finale. La recherche de la cause finale est transformée par la foi, tandis que la recherche de la cause formelle, non. Oui, il faut être très, voir ça très bien pour ne pas choquer les hommes, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, et pour être dans la vérité.
Alors, la seconde question concerne plus notre recherche. L'unité propre que possède la personne humaine pose un problème spécifique. Cette unité est celle de l'ousia, qui est au-delà du morcellement du temps. C'est à la fois l'unité d'un principe d'être et d'une substance individuelle subsistante. Pouvez-vous nous éclairer sur le fait que la personne humaine, douée de l'unité substantielle âme-corps, possède une substance, entre parenthèses, ousia, capable de subsister en elle-même au-delà de l'union au corps? Comment aborder dans une philosophie de la personne humaine le problème de la corruption du corps et de l'immortalité de l'âme?
Le problème de la personne humaine n'est pas le problème de la substance, de l'ousia. Le problème de la personne humaine, c'est de savoir ce que je fais de ce capital de vie que je possède. Comment je l'oriente? Donc il se prend du côté de la finalité. Et la finalité, ce n'est pas l'ousia, c'est l'acte. Qui présuppose l'ousia. L'ousia est présente, c'est sûr, mais l'ousia est dépassée. Est dépassée dans la recherche de la finalité. Et c'est à la recherche de la finalité qui fait que je suis chrétien. Et c'est pas l'ousia. Je suis chrétien parce que je sais que l'homme est fait pour Dieu. Finalité. La substance n'est pas faite pour Dieu. La substance, au contraire, me donne l'indépendance. Feuerbach a vu ça de façon très nette. Et son athéisme repose entièrement sur la substance. Je suis indépendant. Je suis autonome. Oui. Donc il faut bien voir que ce n'est pas l'ousia. la distinction se fait par le point de vue de la finalité. Et le point de vue de la personne n'existe que grâce à la finalité. Et c'est pour ça que dès le début, quand on a voulu chercher la finalité en dehors de la finalité, on est dans une position où il n'y a pas de solution. C'est la finalité qui me justifie ma personne. Que la personne réclame l'autonomie, c'est sûr. Que la personne réclame la substance, c'est sûr, mais ce n'est pas là où formellement je découvre ce que c'est que la personne. C'est par le point de vue de la finalité. Vous êtes d'accord?
Mon père, profondément aussi, il y a la question de l'unité substantielle âme et corps, et le fait que...
L'unité, au plan philosophique, se prend du côté de la substance et du côté de la finalité. Nous avons deux points qui nous permettent de comprendre l'unité. L'unité est une propriété de l'être. Elle n'est pas l'être, c'est une propriété de l'être. C'est une propriété de la substance, c'est une propriété de l'acte, de la finalité. C'est parce qu'elle est une propriété qu'elle regarde à la fois la substance et l'acte. J'ai en moi deux sources d'unité dans mon être. Je m'unifie grâce à ma substance, grâce à mon acte. Grâce à ma substance, c'est fondamental. Grâce à l'acte, c'est formel, c'est ultime. Donc, vous voyez, la cave et le grenier. La cave, la substance. L'unité repose sur la substance, sur l'âme. Je suis un grâce à mon âme. Mais mon unité de mon âme ne me donne pas mon unité dernière. Mon unité personnelle se prend de la finalité. L'unité personnelle de ma vie.
Mon père, est-ce que c'est par la finalité aussi qu'on doit pouvoir éclairer le fait que la substance est capable de subsister au-delà de l'union au corps? Est-ce que la finalité a quelque chose à nous dire par rapport à ce fait-là, que la substance peut subsister au-delà de l'union au corps?
La subsistance est une qualité de la substance. Vous voyez, directement. Ma substance est telle qu'elle subsiste. La substance de l'animal, et c'est pour que l'animal n'a pas au sens fort de substance, la vache. Est-ce que la vache est une substance? Elle a une nature. Bon, je vois la différence entre substance et nature. La vache a une nature, ça c'est sûr. Et cette nature est parfaite lorsque cette vache est mère de petits veaux. Alors elle fait ça, Elle est heureuse, elle a son petit veau. C'est sa nature qui est parfaite, puisqu'elle peut féconder, elle peut engendrer, je veux dire. C'est la nature. Vous voyez, et ça, ça n'a pas été suffisamment net dans l'aristotélisme. Je crois qu'il faut réserver le terme substance pour l'âme. Et avant, on prend le terme nature. Aristote parle de la nature pour toute la philosophie physique. Il commence à parler des substances pour l'homme. Donc la vache, elle n'a pas de substance. La substance vache. Il y a des substances vaches, mais qui ne sont pas des vaches. La substance subsiste, elle nous donne une autonomie dans l'être par elle-même.
Comment est-ce qu'on peut aborder la question de la corruption du corps et de l'immortalité de l'âme par rapport à la personne humaine?
On doit aborder ça par le point de vue de la vie. L'homme, oui, et aujourd'hui c'est très important, c'est le problème qu'on doit voir aujourd'hui. Comment montrer à ceux qui ne sont pas croyants, qui sont de purs philosophes, que leur philosophie leur permet de préciser que notre substance, c'est notre âme, et que cette substance est au-delà du point de vue forme et matière. Le point de vue forme et matière est adéquat à la nature. C'est la nature qui est forme et la matière. Dire que la forme est adéquate à la substance, c'est faux. La substance est principe d'être. Elle n'est pas principe de forme. Je crois qu'on a... faut pas confondre. La scolastique confond tout. Mais le philosophe montre qu'il y a quelque chose de nouveau quand je regarde l'homme. C'est qu'il y a une substance. Je ne crois pas que la vache a une substance. Une autonomie dans l'être. Elle n'a pas d'autonomie dans son être. Elle est dépendante de tout le contexte. Voyez, c'était la réflexion des prisonniers de guerre, quand ils revenaient, tout ce qu'on a subi, un animal ne serait plus vivant. J'ai entendu ça deux, j'aurais pas fait dire, c'est eux qui l'ont dit spontanément. Et je recueillis ça, parce que je me disais, c'est très intéressant. C'est au fond la substance. Tout ce qu'on a fait, tout subi, tout ce qu'on nous a fait travailler, tout ce qu'on a fait, un animal serait mort. Parce que ce serait la nature, la forme naturelle, et ce ne serait pas la substance. Et nous pouvions résister parce que on avait quelqu'un qui nous attendait. Notre épouse, notre mère. Donc, l'amitié est la tenue dans la vie. Et je trouve ça très fort, moi. Je ne peux pas dire ça de moi. ce que j'ai subi de vie, c'est pas ça qui me fait comprendre que mon âme existe, non. Mais quelqu'un qui revenait avoir passé quelques années dans des services très durs, où vraiment autour de soi, les gens plus faibles périssaient, ils ont fait une expérience de l'âme, une expérience de la substance. Pas une expérience directe, mais d'une vie substantielle. D'une vie qui, au fond, prenait ses ressources au-delà du corps, dans l'amitié. Donc, des ressources spirituelles. Et je crois que c'est très important, ces choses-là, au point de vue philosophique. C'est intéressant de pouvoir parler à des gens qui ont fait une très grande expérience et qui se mettent à parler justement comment ils ont résisté et qu'est-ce qui leur a permis de résister. C'est du reste, dans le langage ordinaire, pour un malade, le médecin dira, oui, son moral le tient. Qu'est-ce que ça veut dire quand il veut dire qu'il faut garder bon moral ? C'est garder le sens que notre âme, notre substance, est au-delà de notre corps. Si je mets mon espérance dans mon corps, je demande comment ça va au point de vue médical tous les jours, mais si ça baisse, si médicalement mon corps diminue, alors je n'ai plus le moral. Tandis que si, je dis oui, c'est évident, mon corps diminue, mais j'ai une espérance humaine. Je sais que j'arriverai à vaincre ça. Mais il y a l'expérience de quelque chose de plus que le corps. Parce que ça m'intéressait beaucoup de parler avec ceux qui revenaient. Sur le moment, ils en parlaient. Après, ils n'ont plus parlé. Mais sur le moment. Est-ce que c'est le corps qui disparaît ou c'est l'âme? Et au fond, il y a des expériences qu'on est obligé de reconnaître où le point de vue âme porte le corps. D'habitude, l'âme et le corps, c'est un. Mais il y a des expériences où le corps est porté. Et là, il a bon moral. L'expression classique du médecin, il a bon moral. Est-ce que ça va? Oh, je sais pas, mais il a très bon moral. Qu'est-ce que le médecin veut dire quand il dit ça? Le médecin ou l'ami? Il montre qu'il y a quelque chose en lui qui dépasse sa santé corporelle. Et ce quelque chose qui dépasse sa santé corporelle montre bien qu'il y a en lui un élément, disons pas plus, un élément, quelque chose, qui lui permet de dépasser. Cette expérience que en Angleterre tout le monde sont très étonnés de voir cette jeune personne qui attend un enfant qui a reçu ce coup terrible, coup de couteau terrible et qui garde une espérance. Alors on dirait, c'est surnaturel, oui, c'est surnaturel, mais c'est aussi naturel. Alors, c'est quelque chose qui humainement ne s'explique pas. Humainement, corporellement ne s'explique pas. C'est quelque chose qui dépasse. Et je crois, vous voyez, qu'au fond, le philosophe s'intéresse à ça. Parce que pour lui, c'est énorme. Et à un moment où les philosophes nient l'existence de l'âme, une petite malade montre il n'y a pas que le corps. Il y a un rayonnement qui dépasse. C'est si je dirais être témoin de la présence de l'âme en nous, la présence d'une force. Oui, et c'est pas la nature, ça. Au point de vue nature, elle devrait être dans la tristesse, c'est fini. Surtout une maman qui attend un enfant. C'est une espèce de contradiction éloquente qui dépasse la nature. C'est ces exemples-là qu'on doit, sur lesquels on doit réfléchir, parce que ces exemples-là nous montrent un dépassement de la nature au niveau vie. D'autre que la nature. Ça vient de l'âme. Nous disons ça tout de suite. Mais pour ceux qui sont positivistes et qui ne voient que la nature, c'est invraisemblable. C'est un cas exceptionnel d'une nature invraisemblable. Oui, ils ne pourront pas l'expliquer. Tandis que nous essayons de voir ce dépassement. Vous comprenez très bien, le dépassement de l'âme immortelle par rapport au corps, c'est un dépassement qui se fait tout le temps. Et qui émerge dans certains corps. Et qui se fait tout le temps. Je ne vis pas au niveau de mon âme unie à mon corps. Si je veux mener une vie de recherche intellectuelle de la vérité. Ce n'est pas mon âme unie à mon corps qui me donne la vérité sur l'homme. Mon âme unie à mon corps fait comprendre les sensations, fait comprendre l'imagination. Mais il y a plus. Et ça, je vois ce dépassement chez le savant. La conférence que nous avons eue sur la vache folle, ce jeune savant, mais on voit très bien ce que ce jeune savant tient comme situation, quand on sait le contexte. On dit, mais oui, il est témoin que l'âme existe. Et il le sent. Vous voyez, on n'est pas témoin que l'âme existe quand on mange. Bon, je regrette, mais on n'est pas témoin. On n'est pas témoin de l'âme existe quand on dort. Quand on travaille, travailler intellectuel. Passement de l'âme et qui posera la question de l'immortalité. Le corps périt, il est dans le temps. Le corps est dans le temps. Et il disparaît quand il vieillit. Il n'a plus la force de lutter. Le corps n'a plus la force de lutter, mais l'âme qui dépasse le corps lutte. Et on peut, à ce moment-là, garder bon moral, c'est-à-dire, justement, comprendre qu'il y a en nous quelque chose qui dépasse le corps et qui nous maintient vivants. La vie charnel, sensible, diminue, et la vie intellectuelle augmente. Ça, on peut en avoir l'expérience. Et je crois que ça fait justement cette expérience qu'il y a en nous quelque chose qui échappe. Quelque chose qui échappe à la mort, le chrétien dit l'âme. Le philosophe, surtout aujourd'hui, il y a quelque chose qui dépasse le point de vue sensible, le point de vue de la lutte du malade qui lutte contre la mort. Il y a quelque chose. Jusqu'où ça va, difficile. Difficile à savoir. Parce que je fais la distinction entre âme et corps. Mon âme informe mon corps jusqu'où mon âme informe mon corps avec la liberté de quelqu'un qui est libre du corps. Mon âme est libre de mon corps. Mais tant que je vis ici sur terre, mon âme, dans son exercice, dépend du corps. Mais dans cette dépendance du corps, il y a quelque chose de l'âme qui émerge, qui dépasse. Et ce quelque chose qui dépasse est très difficile à préciser. Il faut des codes. On ne peut pas inventer soi-même. Il faut des codes. On a dit point de vue chirurgique, que les blessés de guerre avaient permis de très grandes avances au point de vue biologique. Vous voyez, les cas extrêmes. Si on se met à les étudier au plan philosophique, ces cas extrêmes nous montrent qu'il y a quelque chose qui résiste, qui dépasse le point de vue purement corporel. Et je crois, vous voyez, dans des moments comme les nôtres, parce qu'on vit une poussée extraordinairement forte du matérialisme, du positivisme. On est plongé dedans. À tel point que ce n'est pas seulement les biologistes, mais que c'est même très souvent les philosophes et les théologiens. Ils sont attaqués par ça. Il faut être très fort philosophiquement, théologiquement, pour bien voir cette espèce de grande levée. Très forte et qui plonge l'homme dans la matière entièrement. Et il y a toujours des témoins. Si on est bien éveillé, il y a toujours des témoins qui nous disent « Ah, voilà. » Il n'y aurait qu'un seul témoin dans tout l'univers qui porterait le drapeau d'une âme qui porte le corps. Nous disons toujours, l'âme forme du corps. Alors, passons à cette autre formule, l'âme porte le corps. Et si l'âme porte le corps, elle a quelque chose qui dépasse le corps, qui lui permet d'aller plus loin que normalement il irait, et surtout elle, d'attendre quelque chose qui lui est propre.